Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Seb au micro, ce soir on va parler de hard science, de musique, de dépression et d'art. Ça va être génial. Attention, c'est parti pour le générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni. Ore wa naru.
Batman. Oh, d'un petit ch'tou.
Sortez vite. Venez par suite-moi ici.
Justement, les touristes de mort.
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez pouvoir voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Vous pouvez nous retrouver en direct sur YouTube. Vous pourrez voir les images qu'on vous propulse dans les oreilles. Et puis, vous pouvez également nous suivre dans le chat de la radio sur le site de Radio G. Ce soir, je ne suis pas tout seul encore. Je suis avec Fabien. Ça va, Fabien ?
Ça va bien. Ça faisait un petit moment.
Ouais, c'est ça. Ça fait un bon mois quand même.
Eh ben oui, exactement. C'est ça.
Carrément. Et puis, je suis avec Bruno. Ça va, Bruno ?
Ça va, Sébastien. Très bien.
Eh ben parfait. On va commencer avec les news, si vous le voulez bien. Une petite news que j'ajoute, parce que Florence n'est pas là ce soir, elle est malade, donc on lui souhaite un bon rétablissement, un petit grog et ça va aller mieux. Une petite news qui fait plaisir, alors qui est pas spécifique BD, mais la librairie Contact a réouvert après quelques péripéties, quelques errements. Elle a finalement retrouvé un repreneur avec une équipe quasiment renouvelée à 100%. Donc voilà, on souhaite un bon retour à cette librairie qui a un rayon BD, voilà. Même si c'est pas son cœur d'âme, mais voilà, c'est cool.
Bah oui, c'est une BD, en plus c'est historique sur Angers, donc ouais, c'est toujours ouais. Agréable de garder des petits commerces comme ça.
C'est ouais, clair.
C'est sûr.
Les news. Alors, on va dans un premier temps parler d'une série de festivals qui auront lieu à peu près à la même date, c'est-à-dire le week-end des 14 et 15 mars 2026. On va commencer par le salon Pen Art BD à Quimper, au parc des expositions Quimper-Cornouailles. Vous y trouverez un large choix de bandes dessinées et de vinyles. Pour toi, Bruno, du coup, puisque c'est aussi le salon du vinyle. L'invité d'honneur sera l'auteur breton Loïc Sénan et il sera présent tout le week-end pour des moments d'échange et de dédicaces. Il y aura la remise du prix de la BD bretonne qui récompensera un artiste pour son œuvre en lien avec la culture bretonne. Et le festival est gratuit pour les moins de 12 ans. Il est de 3€ pour le samedi, 4 pour le dimanche et 6 pour tout le week-end. Il y aura à la même date le festival L'Esprit BD à Colmar pour sa 22e édition dans le Haut-Rhin, salle des Catherinettes. L'événement sera ponctué d'animations variées avec des ateliers créatifs et un concours de dessin. Vous pourrez également échanger avec les auteurs et autrices présentes en repartant avec une ou plusieurs dédicaces. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans, 3€ pour une journée et 5€ pour deux jours. Et puis, on va aller un peu plus au sud, dans le Cantal, où se tiendra la 12e édition du festival BD Aurillac Aglo. Une trentaine d'auteurs et autrices seront présents. On aura même des artistes venus de loin pour certains. Un auteur chinois, une traductrice franco-japonaise de manga et un auteur américain venu de Détroit, Jérémy Bastian, dont la maison d'édition, qui se nomme les éditions de la Cerise, sera aussi mise à l'honneur avec une exposition, La Cerise, 20 ans et quelques noyaux. Les équipes de la médiathèque de l'agglomération qui portent le projet ont pour objectif de faire découvrir la BD à un large public et notamment aux enfants puisque durant la semaine précédant le festival, il y a une itinérance artistique avec deux illustrateurs, Benoît Dupeloux, qu'on connaît bien, et Stéphanie Léon, qui interviennent pour des ateliers dessin dans 16 écoles de l'agglomération. Au programme du festival, il y aura des projections, spectacles et bien entendu rencontres et séances de dédicaces avec les artistes. On remonte un peu plus dans le nord, depuis le 4 mars et jusqu'au 29 mars, pour ceux qui se trouvent du côté de Strasbourg, vous pouvez vous rendre au BD Central Vapeur, qui est un festival mettant à l'honneur la bande dessinée sous toutes ses formes, l'illustration et le dessin contemporain. L'objectif de ce festival, qui dure plusieurs semaines, c'est vraiment de mettre en avant des œuvres très originales, et c'est donc dans plusieurs endroits de la ville que se tiennent de nombreuses animations et expositions, avec aussi un salon des éditeurs indépendants. Je vous invite à consulter le site centralvapeur.org pour avoir tout le détail de la programmation. Et pour finir, une autre information, est-ce que tu peux, Fabien, s'il te plaît, celle qui est juste en dessous, qu'on va mettre au niveau de l'écran, là? Hop. Alors, c'est une petite brève, hein, mais c'est toujours important à voir. La BD que les gens qui sont sur YouTube peuvent voir s'appelle L'Académie Clair-Obscur. C'est de l'auteur Olivier Guay. C'est édité chez Dracou. Et ça a reçu, il n'y a pas très longtemps, un courrier de mise en demeure de la part des avocats de Sandvol Interactive, les avocats du jeu vidéo Clair-Obscur Expédition 33, qui porte donc un peu le même nom, pour le sommet de cesser la vente de sa BD. Ce qui est très agréable pour Olivier Guay, c'est qu'il explique que le projet de sa BD portant ce même nom a démarré en 2019, donc bien avant la sortie du jeu. Toujours selon ses propos, Olivier Guay ne souhaite pas entrer dans un long combat juridique et il devra sans doute changer le nom de sa BD, et on lui souhaite un bon courage dans ses démarches.
Oui, je trouve ça un peu moyen de la part d'un studio d'aller jusque-là, sachant que ça parle pas de la même chose, que c'est pas le même sujet.
Style graphique est clairement pas le même.
C'est surprenant, parce que si ça a rien étonnant à voir sur la thématique, sur l'histoire, et qu'en plus, clair-obscur, c'est une expression courante.
Bah oui.
Donc, un clair-obscur, voilà, on trouve ça dans le dico. C'est surprenant. Et j'avais cru comprendre que Clair-Obscur, c'était la dernière hype.
Oui, tout à fait, des jeux vidéo. D'ailleurs, moi,
jeux
j'y
vidéo,
joue en ce moment,
français, Cocorico, ça marche, ça cartonne partout. Et ils ont vite pris la mentalité américaine.
Ou alors ça s'est noyé peut-être dans d'autres choses qui abusent et du coup peut-être qu'il y a de ça aussi, parce que c'est tellement la hype partout qu'il y a sûrement des abus à certains endroits là-dessus et ça s'est mis là-dedans, alors que je pense que ça a pas lieu d'être.
Ça a clairement pas lieu d'être. Et puis pour pousser le bouchon un petit peu loin, comme le disait Bruno, Clair-Obscur c'est une expression bien connue. Alors, bientôt on va interdire les médecins de demander aux patients de dire 33 pour dire qu'ils sont pas malades. Bref. Je l'ai pas encore lu, donc on n'en parlera pas ce soir, mais je compte bien la lire, c'était dans ma pile à lire quand je suis tombé sur la brève, donc j'ai fait « Ok, on verra ça ». On va d'abord, alors ça aurait pu être un titre de jeu vidéo, hein, Expédition Woodstock 69, mais non, juste Woodstock 69, le concert du siècle, c'est ta chronique, Bruno.
Oui, et absolument, donc je vais vous parler de paix et d'amour. Et un peu de musique aussi, forcément.
Un petit peu.
Donc les connaisseurs le savent, hein, les festivals de musique, c'est chiant. D'abord, vu que c'est en plein air, tu es à la merci des caprices de la météo. Et comme la plupart des festivals ont lieu en été, c'est soit le cagnard, soit la grosse drache, et souvent un mix des deux sur plusieurs jours. Insolation ou pneumonie, choisis ton forfait avec option bain de boue les bonnes années. Le son est au mieux passable et le plus souvent pourri, et dans tous les cas hyper fort pour que chaque scène couvre bien le niveau des décibels des autres. Côté finance, le prix du billet te coûte un rein, la bouffe est chère, la boisson est chère, et si t'aimes pas la bière, ça va être compliqué. Et pour évacuer tout ça, les chiottes sont immondes avec une file d'attente qui te fait regretter n'importe quel guichet de l'administration de ton choix. C'est blindé de monde, donc tu te tapes un bouchon d'un chassé-croisé estival, mais dans un seul sens, puis tu galères à trouver une place de parking à l'autre bout du bled et tu dois encore marcher plusieurs bornes jusqu'au site du festoche. Et n'oublions pas l'hébergement, ou plutôt, si, oublions-le, car on ne peut pas vraiment qualifier ainsi le bout de champ merdique où tu iras t'installer au milieu d'un océan de tentes de camping, dont les propriétés d'isolation phonique légendaire te garantiront chaque nuit une absence totale de sommeil. Pas de soucis, tu auras toute une semaine de boulot derrière pour bien récupérer. Voilà. À part ça, l'ambiance est plutôt cool et surtout, il y a plein de groupes. Le point de départ de ces joyeux bordels musicaux qui se déroulent chaque année un peu partout dans le monde porte un nom emblématique, Woodstock, qui s'est en fait déroulé à Bethel à environ 100 km et a confronté le public à toutes les galères susmentionnées. Il a constitué du 15 au 18 août 1969 le paradigme de tous les festivals de rock dont il détient aussi le record d'affluence. 500 000 personnes, environ.
Selon la police.
Je cherchais l'expression. Selon les organisateurs. Mais c'est un peu le chiffre officiel. Un documentaire et un album live ont immortalisé l'événement et de nombreux bouquins ont été écrits, dont quelques BD. Woodstock 69, c'est la dernière en date. Keith Toussaint a pris le parti scénaristique, donc, plutôt que de pondre un énième biopic, d'utiliser ce moment de l'histoire du rock comme toile de fond à une intrigue purement fictive, illustrant les trois piliers du mythe Woodstock, paix, amour et musique. Rock. Sortez les fleurs. Un petit cahier documentaire, d'ailleurs, à la fin de l'album, fournit les choses essentielles à connaître sur ces quatre jours exceptionnels qui ont réuni quasiment toute la crème du rock de l'époque. On n'a jamais revu une telle densité de talent depuis, hormis peut-être le Live Aid en 1985. Ulysse, le héros, est un soldat rescapé du Vietnam où il a reçu une lettre de Leslie qui lui annonce vouloir le quitter pour aller se marier avec un autre homme à Woodstock. Leslie, l'héroïne, est en route pour le festival accompagnée de Gabi, enceinte de 8 mois, qui compte bien trouver, Gabi c'est sa sœur, qui compte bien trouver sur place un père pour son futur rejeton. Ulysse va tout faire pour retrouver Leslie parmi les centaines de milliers de festivaliers et empêcher ce mariage qui, après le traumatisme du Vietnam, bouleverserait sa vie une seconde fois. Son odyssée, forcément, va lui faire découvrir le foutoir absolu du festival, mais aussi son ambiance unique. Il va croiser quelques personnages hauts en couleur, tels notamment Franco, un coiffeur italien, persuadé que toute cette affluence chevelue va lui offrir une clientèle abondante. Et on a qu'on le sens du commerce. D'ailleurs, ça joue pas mal là-dessus au niveau de l'humour. L'intrigue principale est ponctuée par l'évocation de quelques grands moments du festival, les concerts évidemment en premier lieu, les galères de l'inorganisation du festival, dont la logistique était prévue pour 10 fois moins de personnes, les problèmes techniques aggravés par quelques pluies torrentielles, le manque d'argent pour payer les groupes, etc., etc. Et au milieu de ce maelstrom, Michael Lang, l'instigateur du festival qui absorbe avec zénitude tous les problèmes. Sa présence rayonnante est le fil rouge de l'histoire et il incarne à lui seul tout l'esprit de Woodstock, même s'il est probable qu'il n'a pas dû être aussi serein qu'il apparaît ici. Le dénouement offre une issue inattendue et assez ironique qui pourra peut-être déstabiliser certains lecteurs mais qui reste dans l'ambiance générale du récit. Évidemment, je ne vous dis rien. Parfaitement servi par le dessin superbe de Munuera. Virtuose sans être démonstratif, qui apporte à ses personnages cette petite touche qui nous les rend aussitôt familiers. L'idéal de Woodstock peut sembler aujourd'hui un peu naïf et dépassé, certes, mais on ne peut pas lui dénier sa sincérité et le fait qu'il reste à ce jour le plus grand festival de l'histoire du rock, auquel Woodstock 69 rend un bel hommage. Voilà.
Eh ben super. On redonne les références.
Alors, c'est chez Le Lombard. C'est un one shot avec José. On va respecter la langue hispanique. José Luis Munuera. Je vais pas rouler les R, j'y arrive pas. Au scénario, Keith Toussaint. Ça s'inscrit d'ailleurs dans une série qui a débuté chez Le Lombard. Il y a La Course du siècle qui fait partie de cette collection émergente. Bon, bien sûr, c'est une comédie sentimentale et puis bien sûr on a l'histoire du rock en toile de fond. C'est paru le 30 janvier 2026 et ça fait 120 pages pour 22,50 €. Donc on l'a eu en service de presse. Merci au Lombard parce que c'était un chouette moment de lecture et une BD à recommander. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme je l'ai dit, voilà, on évoque Woodstock, mais si on veut vraiment aller en savoir plus, si on n'en sait pas déjà beaucoup sur ce festival mythique, il y a un petit cahier documentaire à la fin, et puis après, allez voir les vidéos, les documentaires, c'est suffisamment mythique pour trouver tout ce qu'il faut facilement.
Parfait. Je kiffe le dessin et je note qu'ils ont fait un petit côté lens flare comme si c'était des vieilles photos sur certaines. Alors je pensais que c'était la couverture qui était un peu abîmée. En fait, à l'intérieur, non, on a ce petit lens flare de temps en temps qui marche très très bien.
Oui, c'est vraiment très cool. C'est vraiment Bamidura, c'est un super dessinateur. Il me fait un peu penser à Guarnido. Hein. Ils sont très forts, ces Espagnols. Il y a même une, on peut dire qu'il y a un peu une école espagnole. Il y en a d'autres aussi, comme La Fèbre. Voilà, donc c'est très inspiré par Disney au départ. Bon, après, chacun son style, mais oui, c'est de la belle ouvrage.
C'est de la belle ouvrage. Tu nous as choisi un petit morceau musical pour la pause qui est bien d'époque.
Ah bah oui, c'est
je te laisse annoncer du coup.
Merci. Si ouais, en fait, c'est tout simplement un morceau des Who lors du concert à Woodstock. Pour l'anecdote, ils devaient jouer le samedi soir et ils ont joué le dimanche matin à 5h du mat. C'est pour vous donner un exemple façon dont tout a été parfaitement géré pendant ce festival.
Impeccable. Et ben, on vous laisse avec Summertime Blues. Et après la pause, on écoutera une interview de Mathieu Persan, l'auteur du Passage. Il n'y aura pas d'interlude à la reprise. Allez, on vous laisse avec The Who et Summertime Blues. Normalement, oui, mais là, ça veut pas. Super, un petit incident technique, c'est trop bien. Mais oui, si j'ai... Voilà. Allez, on vous laisse.
Radio G 105 F. FM.
Bonjour Mathieu, on va parler ensemble de votre ouvrage Le Passage, qui sort le 11 mars prochain aux éditions Hachette. C'est un ouvrage qui parle de santé mentale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet ouvrage ?
Oui, en fait, il s'agit d'une histoire vraie, c'est pas vraiment une fiction, puisque c'est l'histoire de la dépression de ma fille, qui lui est tombée dessus quand elle avait 15 ans. Et c'est à la fois un récit qui porte sa voix et qui porte aussi la mienne, qui s'adresse à la fois aux enfants qui sont malades et puis aux parents qui doivent les soutenir.
D'accord. Donc c'est pas un mode d'emploi face à cette situation-là, c'est plutôt le récit du moment où vous avez découvert ça.
Exactement. Non, je voulais absolument pas faire quelque chose de très comment dire. Je voulais être dans l'histoire en fait. Je pense que c'est important aujourd'hui pour pas mal de jeunes et de parents de raconter leur histoire parce qu'en fait on se rend compte qu'elle est jamais racontée. On va parler de santé mentale beaucoup, mais c'est bien. On va parler des chiffres qui sont très alarmants, mais rarement on va raconter ce que c'est que le quotidien d'un gamin qui va pas bien et le quotidien de ses parents qui doivent l'accompagner. Et ça me semblait important, justement, de raconter ça sous une forme d'histoire.
Ok. Ouais, d'apporter ce témoignage pour que des personnes puissent se dire « Ok, ça, c'est une situation, ce sera peut-être pas la mienne. »
Exactement. Après, je pense que voilà, j'ai essayé d'être le plus universel possible. Je pense que malheureusement, c'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de plein de parents et de plein d'enfants, parce que effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on voit que les chiffres sont toujours plus grands sur les consultations, les hospitalisations d'enfants qui vont mal. Et je pense que malheureusement, beaucoup de gens peuvent se retrouver dans cette histoire, qu'il s'agisse de la vie quotidienne, qu'il s'agisse des problèmes pour trouver des solutions médicales. Qu'il s'agisse du temps long, de sentiments d'impuissance face à la maladie. Je pense que c'est des choses qui sont assez universelles quand on doit traverser une épreuve comme celle-ci.
Oui, effectivement, je partage cette opinion. Vous pensez que la santé mentale est mal considérée en France aujourd'hui ?
Je pense pas qu'elle soit mal considérée aujourd'hui. Le problème, c'est que on en parle beaucoup. On fait même des causes nationales 2 ans de suite parce qu'on s'est rendu compte qu'en 1 an on n'avait pas eu le temps de faire grand chose. Mais derrière, dans les faits, il se passe pas grand chose. C'est-à-dire que quand on est confronté au système hospitalier, au système de soins, on se rend compte quand même très vite des limites en termes de place, en termes de moyens. Et après, il y a aussi un problème d'opinion publique général vis-à-vis de la santé mentale, même si les choses s'améliorent justement parce qu'on en parle et c'est très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent par exemple que la dépression, peut-être qu'un petit coup de pied aux fesses, ça pourrait faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que on vit quand même dans une société où la maladie mentale est vue comme un échec et pas comme une maladie. C'est-à-dire qu'il vous viendra jamais à l'idée de dire Jean-Claude a un cancer, c'est un peu de sa faute, il aurait quand même pu se forcer. La dépression, c'est un peu pareil. C'est une maladie qui est pas considéré en tant que tel et qui est un peu vu comme une faiblesse. Et dans un monde compétitif dans lequel nous vivons, je pense que c'est d'autant plus difficile pour les malades qui en sont atteints.
Je suis complètement d'accord. On va parler un peu de votre parcours avant d'arriver à la partie ouvrage. C'est quoi votre parcours ? Vous n'êtes pas inconnu, on va dire, dans le domaine du livre, parce que vous avez fait pas mal de couvertures d'ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu d'où vous venez et comment vous êtes arrivé à l'idée de faire un livre à un moment ou à un autre ?
Ouais. Ah bah c'est un parcours particulier. Moi, j'ai coutume de dire que je réalise des rêves que j'avais pas eus. Parce que en fait, aujourd'hui, je suis illustrateur, je fais des couvertures de livres, j'illustre pas mal de choses. Mais c'était pas du tout un plan de carrière. J'ai jamais fait d'études pour ça. Moi, j'ai fait des études de maths. J'ai travaillé pendant quasiment 20 ans dans des sociétés de services ou dans une banque. Vous voyez un peu le décalage.
Il y a un fossé, ouais.
Et j'ai mis 20 ans à m'en sortir. Je me suis rendu compte quand même que c'était un peu un traquenard. Ça a été long et puis en fait, c'est un peu par hasard que je me suis retrouvé là-dedans. J'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à apprendre un peu les outils pour dessiner sur ordinateur il y a une quinzaine d'années. Et puis, grâce aux réseaux sociaux, parce qu'on peut faire des choses bien avec les réseaux sociaux aussi, on a commencé à me demander des images et c'est comme ça que mon activité s'est développée. Et après, je suis assez vite rentré dans le domaine de l'édition. J'ai fait quelques couvertures de livres et puis en fait, j'ai eu une chance inouïe, c'est-à-dire que le style que j'avais a plu et puis j'ai eu la chance de faire des couvertures pour des ouvrages qui ont bien marché. Du coup, après, c'est vrai qu'on m'a demandé pas mal de travail et c'est toujours un plaisir parce que le milieu de l'édition est quand même un milieu très attachant et puis très important. On a l'impression de compter un peu pour quelque chose quand on fait des livres, parce que dans un monde ultra connecté comme aujourd'hui, ça reste un milieu à protéger. Et donc, oui, les choses se sont faites un peu toutes seules. J'ai écrit un premier roman il y a 3 ans. J'ai sorti une monographie de mes 10 ans d'illustration il y a 2 ans. Et puis maintenant, ce livre qui a été fait un peu comme une nécessité, puisque quand ce drame nous est tombé dessus, je me suis dit que j'avais peut-être moyen de faire quelque chose qui serve à quelque chose, parce qu'on se sent tellement impuissant face à la maladie que on se débat un peu en se disant qu'est-ce que je peux faire. Et je me suis dit moi, si mon métier c'est de raconter un peu des histoires à travers des images, il y a sans doute quelque chose à faire d'intéressant et d'utile.
Je reviens juste un petit peu avant. Du coup, vous êtes passé de l'illustration pour vous à la couverture avant de rentrer à l'intérieur du livre et avec le passage de mettre de l'illustration à l'intérieur du livre.
Ouais.
C'est pas un peu intimidant quand même ?
C'est intimidant, mais en fait, moi, j'aime l'amateurisme en fait, c'est-à-dire que j'aime découvrir des choses que je sais pas faire et puis essayer de me débrouiller sans. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman. Je savais absolument pas que j'étais capable de le faire. C'est même comme ça que je me suis lancé dans l'illustration petit à petit. Et en fait, pour ce livre-là, le format s'est un peu imposé de lui-même parce que je voulais pas que ce soit que du texte. Je voulais qu'on puisse se projeter dans une image, mais je voulais que l'image et le texte puissent se répondre. Et que ce soit un peu une unité entre les deux. Donc on est vraiment sur un format hybride à la croisée des chemins entre du texte au long cours, voire un peu poétique parfois dans sa mise en page, et de l'image. Mais j'avais pas de référence en fait. J'ai fait ça un peu au feeling comme je voyais les choses. J'ai commencé à faire une planche, deux planches, puis je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait. Donc j'ai continué.
Ça marche très bien. Et là on est vraiment dans l'application. On va dire textuel du roman graphique, il y a une partie roman, il y a une partie graphique, tout se conjugue. À quel moment vous vous êtes dit que c'était important de raconter cette histoire-là et de cette façon-là ? Longtemps après ?
Non, je dirais un peu au milieu finalement, à partir du moment où on est témoin d'un certain nombre de choses, qu'on se rend compte de la maladie, qu'on découvre ce qui marche en termes de traitement, ce qui marche pas, qu'on découvre aussi des trucs assez choquants dans la prise en charge, en particulier dans les structures privées. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait quelque chose à dire, et surtout quelque chose d'utile à faire. C'était ça mon but. Je voulais pas juste faire regarder mon histoire, lisez-la et ça s'arrête là. C'est vraiment un livre qui s'adresse à tout le monde dans le sens où c'est un problème de santé majeur en France. Et c'est un peu aussi pour alerter sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 10 à 15% des enfants entre 15 et 20 ans qui vont pas bien. C'est une proportion absolument énorme. Et on en parle à travers des chiffres et on raconte pas leur vie. Donc c'était ça que je voulais faire.
Oui, il n'y a pas de concret. Le livre est là pour apporter ce concret-là, montrer un chemin, quoi.
Un passage. Exactement. Et puis montrer ce que c'est qu'une dépression très concrètement. Et alors c'est intéressant parce que j'ai beau dire très concrètement, moi je ne sais pas ce que c'est qu'une dépression et je pense que si on ne l'a pas vécu, on peut pas fondamentalement connaître. Ce sentiment de vide absolu, de perte d'énergie complète que c'est. Et moi, à travers ma fille, elle m'a beaucoup parlé. J'ai essayé de m'approcher au plus près. C'est pas ses mots, c'est les miens. Mais j'ai essayé de m'approcher au plus près de ce qu'elle me disait, justement pour témoigner de ça, pour montrer que cet état, il est un peu incompréhensible par des gens qui l'ont pas vécu, et que les gens qui l'ont vécu ont cette expérience ancrée en eux. Qui leur donne forcément une vision de la vie un peu différente de la nôtre.
Votre fille était au courant que vous partiez sur ce projet de livre ? Et à quel moment vous lui en avez parlé ?
En fait, j'en ai parlé dès le début, avant même de faire des planches, ma fille est quelqu'un qui a toujours voulu aider les autres. Et je lui ai dit, écoute, voilà, est-ce que dans la situation qui est la tienne et qui est la nôtre plus généralement, il n'y a pas quelque chose à faire pour aider justement. On voit bien à quel point on est isolé, on voit bien à quel point c'est difficile de trouver de l'aide, de savoir à qui s'adresser. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose qui puisse aider les gens? Donc je lui ai dit, écoute, moi, le seul truc que je sais faire dans la vie, c'est des livres. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse ça? Au début, moi, j'aurais bien aimé qu'elle puisse écrire elle-même, avoir sa propre parole. Ça s'est pas fait, ça a été un peu compliqué. Et donc j'ai eu son accord pour témoigner en lui disant, raconte-moi tout ce que tu as vécu sans filtre, et je vais essayer de transcrire ça. Et c'est aussi pour ça que souvent les scènes dans lesquelles elle parle, notamment au début quand je raconte vraiment le dur de la maladie, c'est assez poétique, c'est assez métaphorique, parce que je pense que c'est comme ça qu'on s'approche le mieux de ce sentiment, c'est-à-dire que si on reste complètement factuel, on n'aura pas on n'arrivera pas à rentrer dans cette humeur. Et je voulais vraiment qu'on puisse rentrer dans un monde différent, qui est celui de la dépression, qui est pas le monde de quelqu'un qui est pas malade.
C'est de là que vient le poulpe qui prend la place, le poulpe extraterrestre.
Oui, voilà, ça c'était plus une idée, parce que c'était vraiment comme ça que je voyais. J'avais l'impression que ma fille était possédée, effectivement, qu'on lui prenait tout. C'est-à-dire que absolument rien de ce qui fait le sel de la vie ne restait, et qu'il était mangé par une entité qui était à l'intérieur d'elle et qui ne la laissait pas vivre, qui l'étouffait de l'intérieur. Et donc ouais, j'ai eu cette idée du poulpe parce que je trouvais que ça fonctionnait bien dans ce côté un peu monstre qui vient prendre possession des malades.
Ça a été difficile ou ça s'est été plutôt fluide à faire comme ouvrage, où il y a eu des moments où vous avez dit j'arrête parce que je peux pas?
Non, j'étais assez décidé. Je pense que ça a pas été difficile. Après, fluide, tout dépend ce qu'on appelle fluide, mais c'était long parce que j'ai tout fait tout seul, le texte, les images, la mise en page. Donc c'était difficile en termes de somme de travail, mais j'étais assez déterminé à me dire que ce livre, on en avait besoin. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de céder tous mes droits d'auteur. C'est parce que je fais ce livre parce que j'espère qu'il aura une utilité. Et donc ça a été une grosse motivation de travail quand je le faisais, de me dire en fait tu fais pas ça pour toi, tu fais pas ça pour nous, tu fais ça un peu pour des gens qui vont le lire, que ça va peut-être rassurer, pour des enfants qui vont peut-être se reconnaître, pour des enfants qui vont bien mais qui vont mal mais qui savent pas le dire, pour des enfants qui vont bien et qui ont des copains qui vont mal et qui savent pas comment réagir. J'ai surtout pensé à ça et ça a été une source d'énergie pour le faire.
Vous pensez qu'on peut que n'importe quelle personne peut lire l'ouvrage à partir peut-être d'une dizaine d'années, ce qui est quand même pas simple à lire, mais
oui, il y a quand même des choses dures. Donc on parle quand même de scarification, on parle de suicide, c'est des choses qui sont difficiles. Donc je pense que c'est pas non plus à mettre entre toutes les mains sur des personnes qui pourraient être fragiles. Mais je pense que à un moment, faut pas se brider non plus. S'il y a quelque chose que j'ai appris et je me doutais pas, c'est que quand il y a un enfant qui va mal, par exemple, il faut pas hésiter à parler de manière extrêmement factuelle de ses pensées et de ses idées noires. Et que en fait, c'est une bonne chose justement de rendre ça concret, puisque si un enfant est aux prises avec des idées dans sa tête qui sont très profondes et très dures, à savoir en finir avec la vie, le fait d'en parler peut aussi permettre de les mettre à distance. Et je pense que aujourd'hui, on souffre beaucoup de la honte de la maladie, de la honte d'aller mal. Et que moins on ose en parler, plus ça va mal. Et que si ce livre il peut servir à parler, à montrer qu'on peut dire les choses, c'est un succès, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est ce qu'on lui souhaite. C'est vrai que si ça peut permettre de sortir le monstre du placard pour mettre des mots sur des choses qui sont peu palpables, c'est
exactement.
Certainement la meilleure des choses. On parlait d'idées noires. L'ouvrage est intégralement en noir et blanc. Mm-hmm. C'est plus un confort, c'est une volonté, c'est...
Alors, c'est pas un confort, c'était vraiment une volonté, parce que j'avais vraiment envie que le texte et l'image se répondent. Et bon, le texte étant en noir sur une page blanche, et c'était ça c'est un peu imposé. Après aussi, je voulais pas perturber le message avec de la couleur. Quand je fais de l'illustration en couleur, en général, j'aime bien les choses très colorées. Et là, ça s'imposait pas. Il y avait une certaine forme de sobriété. Et aussi de contraste maximum, c'est-à-dire que entre le noir et le blanc, on peut pas faire plus contrasté, et donc c'était une façon de jouer avec ça, et puis aussi sans doute de se donner des contraintes, parce qu'en fait quand on enlève un paramètre, on peut plus se concentrer sur la composition des images, on peut moins tricher en fait, à dire je vais rajouter plein de couleurs, plein de textures histoire de noyer le poisson. Là, on peut pas, l'image soit elle fonctionne, soit elle fonctionne pas. Et c'était ce que je voulais, avoir quelque chose de très impactant et qui fasse vraiment l'unité entre le texte et l'image.
C'est très efficace, puisqu'en plus, comme tu le disais, il y a de la composition, on n'est pas juste sur du texte posé là avec des images qui accompagnent. L'image fait partie intégrante du texte. Des fois, le texte est une image qui vient directement, et il y a beaucoup, beaucoup de choses.
C'était vraiment l'idée de. On parlait de roman graphique tout à l'heure. Je trouve qu'aujourd'hui, on parle de roman graphique pour des trucs que moi j'appelle plutôt de la bande dessinée, et que du vrai roman graphique, à savoir un truc à la croisée des chemins entre du texte, de la littérature et de l'image, on n'en voit pas tant que ça. Et moi, j'ai voulu justement créer ça, quelque chose où on est du texte écrit, en typo avec des sérifs, et de l'image, mais que les deux soient complètement, que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Le texte est écrit en fonction de l'image, et l'image, elle est composée en fonction du texte. Et je pense que c'est ce qui fait aussi un peu l'originalité du livre, c'est que on est vraiment entre les deux, et pour moi, c'est ce qui devrait s'appeler un véritable roman graphique.
Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et ça marche. Ça marche terriblement bien dans le cas du passage.
Ouais, et puis ce qui est intéressant, je me permets d'ajouter quelque chose, c'est que ça permet aussi d'avoir un support qui est très accessible. Et aujourd'hui, on sait très bien que la lecture, c'est compliqué, c'est que tout le monde n'a pas le temps de lire un pavé de 300 pages. Et là, ça permet d'avoir un livre qui dit des choses, qui les montre, et qui est lu globalement en une heure. Et je pense que malheureusement, dans un monde où on est extrêmement sollicité, c'est aussi important, quand on veut faire passer un message, d'avoir un livre qui est très accessible. Et en ça, l'image et le texte, plus la possibilité de le lire assez vite et d'y revenir si on a envie, c'est assez important.
Oui, et puis là, c'est facilité d'autant que certains passages, on n'a presque pas besoin de lire le texte pour comprendre ce que le texte dit, en fait. Là, j'ai cette page avec la bouche ouverte qui crie « Non, mais vous vous rendez compte, vous avez 15 ans, vous êtes déjà en HP », on sent qu'il y a une agression directe sans lire ce qui est marqué sur le texte. Au niveau de technique, tu travailles comment ? C'est du numérique full ou un mix ?
Non, alors c'est vraiment du numérique complet dans la production. Après, dans toute la partie recherche, graphique, je travaille toujours avec un crayon, un papier, pour composer mes images. Et après, ouais, c'est que du numérique. Donc c'est des textures de trame, puis sur du noir et blanc, c'est du vectoriel retravaillé pour qu'il soit un peu plus organique.
Pourquoi le numérique, une habitude ou
Alors, une habitude, deux, je pense que j'aurais pas été capable de le faire en vrai, problème de capacité. Et puis aujourd'hui, faut bien se dire une chose, c'est que en termes de pour produire un livre de 256 pages illustrées, le numérique, ça permet quand même de faire des erreurs, de changer très rapidement. C'est une vraie flexibilité, surtout quand il n'y a pas de système, comme on disait, on n'est pas dans une BD, où chaque double page elle doit être réinventée. À un moment, faut bouger un endroit, faut reprendre le texte, faut bouger un peu plus à droite à gauche, faut changer un personnage de place. Donc j'avais vraiment besoin de la flexibilité maximum pour pouvoir composer les pages pour que ça fonctionne à tous les coups.
Encore une fois, ça fonctionne très bien, donc c'est que c'était la bonne méthode. Est-ce qu'on peut se pencher un petit peu sur le titre, le passage ? Il y a plein de passages différents à l'intérieur. Hein. Pourquoi le passage, du coup ?
Alors, pourquoi le passage ? Déjà parce que je voulais, globalement, dans le livre, pas faire un livre qui soit complètement noir, complètement pathos, complètement triste. Et je voulais qu'il y ait une idée de fin, une idée que cette maladie, ça peut être une parenthèse, que qu'à un moment ça se termine, que si c'est long, si c'est dur, il y a quand même une fin possible, en tout cas. Mmh. Et donc le passage, c'était une idée de voilà, d'une temporalité avec une limite, qu'il fallait passer par là et qu'on pouvait en sortir. C'était surtout ça. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que ça fonctionnait bien parce qu'il y a énormément d'expressions et de passages qui avaient une résonance parfaite avec ce qui se passait dans le livre. Effectivement, le passage à vide, le passage à tabac, le passage protégé, ce genre de choses, et qui correspondait vraiment bien avec le chapitrage de l'histoire. Donc voilà, c'est aussi simple que ça.
C'est la page intérieure, la première sur laquelle on tombe, ouais, j'ai plus garde, son nom, la garde. La garde. Est couverte en fait d'expressions de passage. Certaines qui correspondent aux étapes du livre sont en blanc, mais il y en a d'autres où les gens vont pouvoir aussi piocher et peut-être trouver des éléments qui correspondent pour eux.
Ouais, tout à fait, ouais. Bah l'idée c'était vraiment de faire un objet complet en ayant réfléchi à tout, quoi, des pages de garde jusqu'au rabat, jusque que tout ait un sens. Dans mon métier d'illustrateur, c'est un métier qui doit essayer de donner du sens à un propos sous forme d'image ou de typographie ou de tout ce que vous voulez, mais en tout cas toujours vu mon métier comme quelque chose de porteur de sens. On peut pas juste faire une image pour que ce soit beau, on peut pas placer un texte juste pour rien dire. Et c'est pour ça que ouais, jusqu'aux pages de garde, j'ai vraiment voulu que tout soit, bah, que tout fonctionne, quoi, que tout ait un sens.
Mais c'est mieux hein, quand ça marche comme ça.
Oui, après c'est du travail quand on le voit fini. Des fois, je me dis quand je le relis, je me dis mais en fait bah oui c'est évident, c'est assez simple, la narration est simple, mais on voit pas le travail qu'il y a derrière et le nombre d'heures à s'arracher les cheveux à dire mais comment je vais passer de là à là, qu'est-ce que je vais raconter, pourquoi à cet endroit-là, qu'est-ce que je vais dire pour avoir cette idée qui est un peu vague dans ma tête, comment je vais la représenter, comment je vais le dire avec des mots. C'est assez curieux, c'est souvent des heures et des heures de réflexion, pas forcément à une table de travail, c'est dans la tête, ça peut se passer n'importe comment, quand on prend sa douche, quand on est dans le métro, quand on est en voiture, il y a les idées qui viennent et ça prend beaucoup d'énergie sans qu'on s'en rende compte, et passer parfois jusqu'au papier en se disant bah tiens là ça va marcher, là ça va pas marcher, et puis vraiment ce basculement où on est dans l'idée de ce qu'on veut faire à le faire vraiment, c'est un truc qui est dur, quoi. C'est souvent, enfin, j'ai pas fait beaucoup de livres, mais à chaque fois, je me dis, mais quand je suis au milieu, mais en fait, pourquoi est-ce que tu t'imposes un truc pareil ? Rien ne t'oblige à faire un livre, et pourquoi s'imposer ça ? Et c'est là où bah, faire un truc qui est porteur de sens, c'est ce qui sauve, parce que c'est ce qui fait qu'on va au bout et qu'on s'arrête pas au milieu.
Oui, et puis l'objet fini, on se dit, ok, là, j'ai fait quelque chose d'utile. Voilà. C'est marqué sur la fiche de presse, c'est un roman graphique d'utilité publique, parce que c'est porteur d'un message très fort. C'est ça qui est d'autant plus valorisant.
Bah c'était vraiment l'idée, et puis je me rends compte aussi, c'est ça qui est très touchant, c'est que quand on fait un livre en se disant, bah voilà, moi j'ai envie de créer ce livre pour avoir un message, pour que ça puisse avoir du sens. Et puis pas en tirer une quelconque gratification financière, par exemple, en refusant de toucher des droits d'auteur, on se rend compte que bah, les gens vous suivent. Et ça, c'est génial dans une société qui est de plus en plus individualiste, voilà, qui quand même est très tendue. Quand vous arrivez en disant voilà, moi j'ai fait ça et je veux qu'on en parle parce que c'est important, et ben les gens ont tendance à vous suivre et à dire bah oui. Ouais, parce que moi j'ai rien à vendre en fait, si vous voyez, j'ai juste envie de parler d'un sujet, et les gens, bah, beaucoup de gens mettent leur énergie derrière ce projet pour qu'on en parle, et ça c'est très touchant.
Les bonnes initiatives sont suivies hein, en général, c'est clair. Tu le dis depuis tout à l'heure, enfin, on l'a évoqué déjà deux fois, tu touches pas de droit d'auteur sur cet ouvrage, c'est des associations pour la santé mentale des jeunes qui vont les toucher.
Ah oui, oui, pour moi de toute façon il était déjà, enfin moralement pas possible de tirer un quelconque bénéfice de la maladie de ma fille. Enfin ça, j'aurais vu ça, voilà, je trouvais ça un peu malsain. Puis au-delà de ça, j'ai vu aussi à quel point les associations qui s'occupent de ça sont importantes. C'est-à-dire que que ce soit des associations qui font de la prévention, qui sont fondamentales aujourd'hui, qui soient des associations qui fournissent de l'aide aux gamins qui vont pas bien, ou des associations qui aident des structures hospitalières à mieux fonctionner, c'est quelque chose qui est assez fondamental dans le dispositif de prise en charge des jeunes aujourd'hui.
Il y a des associations en particulier que tu souhaiterais mettre en avant? C'est l'occasion d'en parler.
En fait, il y a beaucoup d'associations. Il y en a. J'ai pas envie de donner de nom parce que en fait, il y en a des très grosses et puis il y en a des toutes petites. Et puis en fait, elles ont toutes leur utilité parce que à chaque moment du parcours de soins, vous pouvez avoir par exemple des associations qui sont adossées à des services spécialisés en pédopsychiatrie qui vont fournir du matériel, par exemple, pour les ateliers que font les enfants. Vous allez avoir des associations de prévention qui vont faire des démarches dans les lycées ou dans les facs ou dans les missions locales. Vous allez avoir des associations qui vont faire de la prévention sous forme de lignes téléphoniques qui permettent aux jeunes qui vont pas bien d'appeler quasiment H24. Donc en fait, c'est extrêmement varié et tout le monde a son utilité.
Ouais, donc on pourrait éventuellement relayer un message. Si jamais vous avez des associations qui parlent de santé mentale, qui vous intéressent, n'hésitez pas à les contacter. Peut-être qu'ils ont besoin d'aide, voilà, de soutien.
Exactement. Ouais. Et parfois, c'est trois fois rien. Hein, vous voyez, enfin, moi, quand ma fille était hospitalisée, à un moment, ils avaient des ateliers cuisine et moi, j'ai appelé mon éditeur. J'ai dit, vous éditez plein de livres de cuisine. Est-ce que vous pouvez pas m'en filer 4-5 qu'on leur donne? Ils m'ont fait un gros carton. Ils ont été super et qu'ils ont envoyé à l'hôpital. Et vous imaginez pas un simple carton de livres, hein, avec des livres de cuisine, ça change pas mal de choses. Déjà au sein d'un hôpital, au sein d'un service avec 8 lits où il y a des ateliers et des petites actions comme ça, c'est pas du tout anodin. C'est-à-dire que la moindre action très concrète pour des petites associations qui s'occupent de ça, ça a des effets notoires.
Ça fait grandement la différence, ouais.
Ah oui, vraiment, vraiment. Sachant que, enfin, c'est des gens qui n'ont pas de moyens. Hein. Faut imaginer l'état de l'hôpital public. Alors déjà en général, mais aussi et surtout en pédopsychiatrie. Pour se faire une idée, vous avez là où a été prise en charge ma fille à un moment. Vous aviez 8 lits pour un secteur, parce que c'est sectorisé, donc pour un secteur qui compte plusieurs millions d'habitants. Donc c'est un peu, on voit le gap sidéral qu'il y a entre les besoins et la prise en charge possible.
Ouais, donc chaque aide est primordiale.
Ouais, et surtout avec une inégalité territoriale immense, c'est-à-dire que quand vous habitez une grande ville, vous avez accès forcément à plus de praticiens, des psychologues, des psychiatres. Je pense que quand vous êtes en milieu rural, c'est d'autant plus compliqué.
Maintenant qu'il est concret, alors moi j'ai eu la chance de le lire un petit peu en avant. Ta fille, il a lu depuis.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle en a pensé une fois fini, avec un peu de recul?
Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Ah ben, en fait, elle a été assez, je pense qu'elle reste assez discrète. Je voudrais pas parler en son nom, mais je pense qu'il faudrait lui demander son avis à elle et peut-être un peu plus tard, parce que là, je pense qu'elle a qu'une seule envie, c'est de s'en sortir, d'essayer de mettre tout ça derrière elle. J'ai pas envie de parler à sa place.
C'est ok. Quand même une question. Si jamais à un moment elle avait dit non, en fait, je veux pas que ce livre sorte, c'était ok?
Bah oui, parce que c'est pas mon histoire. Enfin, c'est une partie de mon histoire, mais c'est surtout la sienne. Et oui, bien sûr que ça aurait été ok. Après, moi, si j'ai fait ce livre-là, c'est vraiment parce que je pense qu'il est utile et qu'il peut servir à quelque chose. Et puis, je pense qu'elle a ça dans son caractère, le fait de vouloir aider les gens, d'être passé par quelque chose et de se dire, est-ce qu'on peut faire de ce passage difficile quelque chose de bien. Mais après, j'aurais respecté son choix, évidemment.
Moi, j'ai un petit rituel, c'est le pitch. Si tu devais convaincre quelqu'un de lire ce livre-là aujourd'hui en quelques mots, comment tu t'y prends?
Oh, c'est compliqué, ça brûle pour point, mais je dirais que c'est un livre qui parle de la santé mentale des jeunes et qui est un sujet fondamental aujourd'hui, qui le traite sous forme d'histoire, parce que je pense que raconter l'histoire de ces jeunes aujourd'hui, c'est fondamental. parce que ce sont des jeunes qui ont tendance à s'effacer de la société, qui disparaissent des salles de classe à bas bruit et que ils méritent qu'on leur rende la vie.
C'est pour ça qu'il faut lire Le Passage. C'est en librairie à partir du 11 mars. Si vos libraires ne l'ont pas, tannez-les pour l'avoir. Ce serait quand même vraiment bien.
Voilà.
Où est-ce qu'on peut te trouver, te suivre, réseaux sociaux, sites?
Globalement, sur Instagram, c'est vraiment un peu la plateforme. Quand on est illustrateur, c'est la vitrine évidente. Donc voilà, Instagram et puis Facebook pour les plus âgés d'entre nous. Okay. Et même LinkedIn, voilà exactement. Même LinkedIn, pourquoi pas, parce que finalement, c'est pas du tout qu'un réseau professionnel. On peut rencontrer plein de gens intéressants, notamment dans le milieu associatif. C'est un réseau intéressant aussi. Et voilà, et surtout pas sur X, évidemment.
D'accord. On tape juste Mathieu Persan et on te trouve facilement.
Voilà, exactement.
Ok, parfait. Peut-être une tournée de dédicace ou des rencontres quelque part dans les...
Oui, il va se caler des choses. Pour l'instant, c'est voilà, le livre sort dans un mois, donc à l'heure où on se parle. Du coup, tout n'est pas calé, mais je vais aller à Aix-en-Provence, je vais aller à Bruxelles, je vais aller à Paris aussi, évidemment, puisque c'est là que je suis. Et puis après, voilà, moi je suis disponible pour organiser quoi que ce soit avec des libraires à partir du moment où l'idée c'est de parler du sujet et d'en faire voilà de faire de la sensibilisation.
Je redonne les références, c'est Le Passage, c'est aux éditions Hachette, c'est de Mathieu Persan et ça sort le 11 mars. Merci Mathieu.
Merci beaucoup.
Radio G 101.5 FM.
Et oui, on est de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous parler de manga avec Kamakura Diary de Kimi Yoshida. Et c'est une chronique de Fabien. On t'écoute, Fabien.
C'est tout à fait ça. Donc aujourd'hui, on va voyager vers les côtes japonaises, bercées par le bruit des vagues et le chant des cigales. Avec la sortie récente chez nous... de l'élégant recueil Les 100 vues d'Utagawa d'Akimi Yoshida, il est impossible de ne pas s'arrêter sur son ancienne œuvre phare Kamakura Diary, un titre qui a redéfini le genre de la tranche de vie avec une pudeur bouleversante. Tout commence par une nouvelle qui arrive comme un écho lointain, la mort d'un père. Un père qui, 15 ans plus tôt, avait claqué la porte de la maison familiale de Kamakura, laissant derrière lui ses trois filles, Sachi, Yoshino et Chika, et une mère blessée. Pourtant, en se rendant à ses funérailles par simple devoir, les trois sœurs font une rencontre qui va tout changer. Elles tombent nez à nez avec Suzu, leur demi-sœur de 13 ans. En regardant cette adolescente, elles ne voient pas seulement une étrangère, elles voient l'enfant que leur père a élevé pendant qu'il les oubliait, mais elles voient aussi une gamine seule au monde, digne et courageuse face au deuil. Pardon. C'est là que l'impensable se produit. Sachi, l'aînée, celle qui a dû porter le rôle de parent trop tôt, propose à Suzu de venir vivre avec elle dans la vieille demeure de Kamakura. C'est le point de départ d'une cohabitation magnifique où quatre sœurs apprennent à s'apprivoiser, à se pardonner et surtout à reconstruire une famille sur les ruines d'un passé douloureux. Ce qui rend Kamakura Diary si organique, c'est sa justesse absolue. Akimi Yoshida ne fait jamais dans le mélodrame pesant. Elle explore la complexité des liens du sang avec une pudeur rare. Comment aimer une sœur qui est le fruit d'une trahison? Comment pardonner à un père absent à travers le visage de son enfant? Mais attention, ne vous y trompez pas, ce n'est pas un drame larmoyant. L'humour est omniprésent et il naît de la vie, la vraie. On rit des chamailleries entre les sœurs, des retours de soirée un peu trop arrosés de Yoshino ou des remarques piquantes de l'aîné qui tente de maintenir l'ordre dans cette colocation improvisée. C'est cet équilibre parfait entre la mélancolie des souvenirs et la drôlerie du quotidien qui rend la série si attachante. On passe d'une réflexion profonde sur le deuil à un fou rire autour d'un plat de sardines ou d'un verre d'alcool de prune. C'est une œuvre sur la résilience, où la joie de vivre finit toujours par grignoter le terrain de la tristesse. Côté graphisme, l'autrice fait un choix radical, l'épuration. On pourrait s'attendre à des décors chargés pour dépeindre la ville côtière, mais Yoshida mise sur la discrétion. Les arrière-plans sont là, mais il ne cherche jamais à accaparer le regard. Pourquoi ce choix? Pour que rien ne vienne distraire le lecteur de l'essentiel, les personnages. En effaçant le décor, elle nous oblige à nous concentrer sur les visages, les regards et les silences. Cette sobriété visuelle met en lumière la force du texte et l'intériorité des émotions. On ne lit pas seulement une histoire, on entre dans l'intimité de ces femmes. Le dessin devient le véhicule parfait d'une émotion pure, sans artifice. En résumé, Kamakura Diary est une parenthèse enchantée, une bulle de vie suspendue. C'est la preuve qu'au-delà de l'action et des grands rebondissements, le plus beau des spectacles reste celui du cœur humain. Personnellement, chaque tome est un pur moment de bonheur. On s'y sent bien, avec souvent ce sourire bête qui se dessine tout seul au fil des pages, ou, à l'inverse, cette petite boule à la gorge et les yeux qui s'embuent sans prévenir. C'est une lecture qui vous traverse et qui reste en vous. Mon seul conseil, foncez, laissez-vous porter par la douceur de Kamakura.
Eh ben, c'est top, ça. Ça donne envie, en tout cas.
Ouais, c'est vraiment très très bien. J'ai pas fini encore, mais là, je vais les dévorer très rapidement.
Tu redonnes les références?
Ouais, donc c'est Kamakura Diary, aux éditions Kana. C'est terminé en 9 tomes. C'est 8,10€ le tome pour 192 pages. Et c'est de Akimi Yoshida.
Eh ben, c'est parfait. Eh ben, c'est top, ça. On est pile dans les temps. Trop bien. Quoi dire? Ben, on va faire un résumé de ce dont on a parlé. On a parlé, dans un premier temps, de Woodstock 69 de José Luis Munuera, Kid Toussaint, publié aux éditions Le Lombard. On a écouté l'interview de Mathieu Persan pour son album Le Passage aux éditions Hachette. C'était deux services de presse. À noter que Le Passage sort le 11 mars. Donc voilà, c'est tout bientôt, frais. Là. Et on a eu une chronique de Kamakura Diary de Akimi Yoshida, j'y arrive pas, hein, publiée aux éditions Kana. Et ça, c'était une chronique libre. Eh ben, c'est cool. On aura plein d'autres choses. On peut faire un peu de teasing pour dans 15 jours, hein, si tu veux, Bruno.
On peut faire ça. Alors, j'aurai le droit de faire une chronique en plus de l'interview.
Ah, on verra. Oui, pourquoi pas, on verra. Mais
on
oui.
verra. Donc, on a prévu de recevoir Olivier Martin.
Qui auteur est local.
Un auteur local, mais aussi national, hein, dont le dernier méfait est « On a mangé la mer ». Donc, qui est un docu BD sur la problématique de la pêche, la surpêche en fait, qui est un superbe documentaire avec forcément, donc évidemment, l'appui d'un scénariste spécialiste du sujet. Il était d'ailleurs au dernier festival BD d'Angers et il y avait une conférence débat sur cette BD. Et c'est un très très grand fan de rock, et tellement fan qu'il a marché avec, c'est un collectif, hein, ils sont je crois trois, je ne veux pas raconter de bêtises, il nous dira ça, auteurs de BD qui ont leur production de BD traditionnelle, et qui à côté de ça vont dans les concerts de rock, notamment, mais pas que, mais plutôt rock, ou Hellfest aussi, voilà. Et ils dessinent, ils font des dessins, des croquis sur le vif pendant le concert, des artistes qui sont sur la scène. Et donc, c'est Luz qui avait commencé un peu à initier ça. Et donc, il marche donc sur les traces de Luz, et il va nous raconter un peu tout ça dans 15 jours.
Et ben voilà, j'espère que ça vous plaira. Merci Bruno, merci Fabien.
Merci à toi Seb.
On se donne rendez-vous dans 15 jours. Et puis en attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Venez par suite-moi ici!
Juste en! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi!
Yeah, it was so-